ensemble sur Calade.
Allez, tout de suite, on est en compagnie du groupe Lily's Baker. On a Lisa Bertrand qui est saxophoniste, Antoine Fontanelle à la contrebasse et Pierre Maire au piano. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, parlez-nous un peu de Lily's Baker. Comment est-ce que le groupe s'est formé déjà? Comment est-ce que vous êtes rencontrés?
Eh bien, tous les trois, on est des étudiants ou ancienne étudiante de l'ENM de Villeurbanne, c'est le conservatoire de Villeurbanne, en jazz. Et j'avais besoin de monter un projet pour mon examen en saxophone classique, puisqu'à l'époque, je faisais aussi du saxophone classique. Et bah, j'ai réuni mes comparses autour de la musique de Lily Boulanger, qui est une compositrice française début du 20e siècle. Pardon. Et l'idée, c'était de prendre deux pièces de répertoire classique et de les transformer en jazz.
Ouais, parce que c'est ça, Lily Boulanger, elle faisait plutôt de la musique classique, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Elle a fait beaucoup de pièces pour ensembles vocaux et pour voix et piano, ce qu'on appelle des mélodies en musique classique.
De toute façon, je crois qu'à l'époque, le jazz, est-ce que ça existait beaucoup? Est-ce que c'était très début 20e? C'était à peine la naissance des premiers morceaux de jazz, non? Si je ne dis pas de bêtises.
Ou... Oui, c'est 1920 les premiers enregistrements. Donc,
ouais.
Bah, ça commence à vivoter un peu avant, mais ce n'est pas le jazz qu'on entend aujourd'hui à la radio. Quoi. C'est plutôt le New Orleans. C'est vraiment une autre esthétique.
Ouais. Et comment est-ce qu'on transforme du coup la musique classique en jazz? Et puis surtout, je crois que vous avez une formation particulière, contrebasse, piano, saxophone. Ça doit être une contrainte au niveau de l'arrangement et de la composition.
Bah, plus qu'une contrainte, faut le voir comme un challenge, je pense.
Ouais.
Déjà. Parce que qui dit contrainte ne dit pas forcément négatif, dit plutôt faire sortir des
oui, bien sûr,
d'autres ouais. manières d'écriture, au contraire. Ouais. Alors, comment on fait ça? On essaie de se laisser porter. Moi, je me laisse beaucoup porter par les thèmes, les mélodies ou les leaders. Je prends souvent des pièces piano-chant, comme ça, c'est pas trop compliqué. Et puis, j'essaie de me laisser porter par le thème, la mélodie, et voir avec mes inspirations, ce que j'écoute, comment je peux transformer ça.
Et si j'ai bien compris, donc c'était un projet lié à vos études, mais le groupe a continué à perdurer. Ça veut dire que ce que vous avez trouvé, ça vous a plu et que vous avez envie d'explorer plus loin?
Oui, en fait, on s'est très vite dit qu'on s'entendait bien musicalement, que ça passait bien et que ça donnait envie d'en faire plus. Donc on s'est dit allez, continuons, cherchons d'autres pièces, étendons le répertoire à la fois avec des standards de jazz qu'on savait jouer, qu'on avait envie d'arranger un peu à notre sauce, et à la fois finalement très vite avec des compositions, d'autres arrangements de compositeurs, compositrices, et notamment il y a eu tout un jeu de musique autour des compositrices,
ouais,
à la fois de classique et de jazz, pour essayer d'explorer aussi ce répertoire qui n'était pas toujours très connu.
Et effectivement, vous êtes intéressé. Alors, c'est Jazz au féminin, ça s'appelle. C'est quoi? C'est un spectacle que vous avez créé, un concerto, je sais pas.
On va dire que c'est une forme qu'on nourrit et qui amène à comment dire, à peut-être à d'autres projets dans le futur. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire entendre des femmes compositrices.
Ouais.
Parce qu'elles ont peu été entendues dans l'histoire de la musique. Et encore aujourd'hui, quand on regarde les grands programmes des grandes salles, il y a très peu de compositrices. Et globalement,
ouais,
les femmes sont assez absentes de la pensée commune, hein, de la culture commune.
Ouais, c'est assez masculin.
Justement, pour nous, l'idée, c'est aussi d'avoir ce prétexte-là pour en parler. Et pour que les gens sortent avec un nom en plus dans la tête et des références.
Et je me suis demandé, on parle souvent d'autrices qui ont dû prendre des noms d'hommes pour écrire des romans ou ce genre de choses. Est-ce qu'être compositrice, il y a un siècle ou deux, c'était simple ou est-ce qu'il fallait un peu jouer des coudes pour se faire une place et être reconnu?
Ouais, c'était compliqué. pour résumer, je dirais, parce que je ne suis pas certain de voir des noms des compositrices qui se soient fait passer pour des hommes, je ne suis pas certain qu'il y en ait énormément.
Non,
je crois qu'il y en a très peu, mais il y a une citation de Liszt à propos de Marie Jaël, qui est une pianiste compositrice. Ah. Qui lui dit dans une lettre, si votre partition était signée d'un nom d'homme, elle serait sur tous les pianos.
Et c'est simple du coup de trouver des répertoires féminins. Est-ce qu'il y a beaucoup de traces ou j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui ont été perdues et qui ont disparu?
Bah là, il y a deux angles, parce que comme on parle aussi de compositrices de jazz et compositrices...
Oui, des choses plus récentes.
Il y a deux parties. Je commencerai par plutôt le jazz. Il y en a des compositrices en jazz, c'est juste qu'elles sont pas forcément très jouées dans ce qu'on on apprend, notamment dans les écoles. Je rebondis aussi sur notre formation. Hein.
Ouais.
Je pense qu'on a tous des standards à apprendre, c'est souvent ça notre formation, et je pense que ça vaudrait le coup d'insérer un maximum de femmes, enfin de compositions de compositrices dans ces listes.
Ouais.
D'autant plus là récemment, donc il y a Terry Lynn Carrington qui est une batteuse de jazz qui a beaucoup joué avec Wayne Shorter, c'était son mentor. Et elle a sorti un real book avec que des pièces et partitions de compositrices. Donc, c'est des travaux qui sont en train d'être menés, en fait, par des artistes, des musicologues, pour faire des répertoires et faciliter l'accès à cette musique.
Ouais.
En classique, il y a eu beaucoup de publications, hein, mine de rien. C'est juste que ça a été pas forcément toujours...
mis en avant.
Il y en a. Mais c'est sûr que pour certaines compositrices... moins connues, parce que forcément il y a une hiérarchie dans les compositrices de musique classique, c'est vrai que c'est un peu difficile des fois d'avoir accès. On a beaucoup de... Il faut aller directement appeler les fondations ou se renseigner auprès des héritiers qui ont accès aux facsimilés, c'est-à-dire aux partitions originales. Mais c'est vrai que l'accès n'est pas toujours évident.
Mais en même temps, ça s'inscrit aussi dans une mouvance, hein, de plus en plus, on voit des études, on voit des publications qui vont dans le sens aussi de la réhabilitation des femmes.
Mais
du coup, il y a aussi une recherche musicologique qui est menée sur les pièces plus anciennes. On voit aussi des pièces réapparaître. Et comme il y a une sensibilisation qui est créée autour, bah forcément, d'autres personnes s'en emparent pour faire de la citoyenne, pour faire des conférences. Donc ça commence à émerger.
Et vous jouez pas que des morceaux d'autres compositeurs, vous composez aussi là les titres que vous m'avez envoyés. Par exemple, c'est vos compositions. Comment est-ce que ça marche au sein du trio? C'est une personne qui compose un morceau pour le groupe ou c'est quelque chose de collectif et collégial?
Alors, ça démarre en général de l'un de nous trois ou l'une de nous trois qui amène une composition et puis qui propose du coup au trio une façon de le jouer. Donc on se l'approprie et bon, surtout en jazz, mais enfin c'est un peu dans toute la musique. La composition en elle-même, elle n'est qu'une partie de la musique qu'on fait. Après, une fois qu'on l'amène dans un groupe, on le joue, en fait, la façon de se l'approprier fait qu'on construit un son autour, on construit des événements musicaux, des choses et des rencontres entre les musiciens qui vont transformer un petit peu la musique et qui vont lui donner aussi tout un esprit particulier. Donc, un peu pour illustrer ça, une des compositions, donc une composition que j'ai amenée qui s'appelle « The Woman I Love », je l'ai amenée d'une certaine façon. Alors, même c'est... plus exactement, en fait, on l'avait construit à partir d'une improvisation commune qu'après, moi, j'ai remis un petit peu en forme, en structure.
Ouais.
Et je l'ai proposé, on se l'est approprié. Et en fait, à un moment donné, au saxophone, à la contrebasse, ils se sont dit faisons un bout de mélodie en commun, et le piano les laisse complètement faire. Mmh. À d'autres moments, en fait, on a construit des transitions qui amènent d'une partie à une autre, des parties qui sont plus dédiées au saxophone ou au piano. Et finalement, la composition est transformée et jouée pour le trio, quoi.
Et c'est vrai que le jazz, c'est une musique très vivante. Pendant un concert, il y a une part d'impro où ce que vous jouez, c'est quand même très écrit et vous savez exactement où vous allez tout au long des morceaux.
Je pense que dans tous nos morceaux, il y a une plage d'improvisation qui est dédiée. Enfin, je pense que c'est, à mon sens, c'est un petit peu l'essence du jazz. C'est ce qui en fait sa caractéristique. Ouais. Et c'est vrai que, in fine, on s'éloigne peu du coup de la forme traditionnelle qui est le thème impro-thème finalement. Ouais. Il y a quelques exceptions, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui, si elles ne sont pas forcément écrites, elles sont rentrées un peu dans nos habitudes de jeu.
Ouais.
Des façons d'accompagner ou alors des indices qu'on peut se donner. Mais je dirais que ça fait partie plutôt d'un langage qu'on a dans le trio et qu'on met au service de l'improvisation ou de l'improvisatrice à ce moment-là.
Vous êtes dimanche au Cuvage de Jasseron pour un concert organisé par Le Chien à trois pattes. Ça ressemble à quoi un concert de Lilith Baker? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre?
C'est une bonne question. C'est avant tout un voyage. Moi, j'ai envie de le dire. C'est assez onirique comme musique, beaucoup d'ambiance, on essaie de faire passer beaucoup d'émotions. Ça s'éloigne peut-être de ce qu'on peut entendre en général dans le jazz. On est loin du combo hard-bop, bebop, avec ce rôle important de la batterie. Donc nous, on est peut-être plus dans d'autres choix de timbres, peut-être un peu plus de... Ouais, un peu plus de poésie. Alors, je dis pas que le jazz... énervé, c'est pas poétique, au contraire, j'aime beaucoup, j'adore en jouer aussi. Mais là, c'est peut-être une autre formation. Je ne sais pas ce que vous diriez, les copains.
Moi, je dirais que c'est plus intimiste. C'est presque de la musique de chambre revue. Un aspect de musique de chambre qui est assez présent du fait de l'absence de la batterie. Hein. C'est vrai que, comme on disait, c'est aussi un challenge, mais c'est aussi une autre façon d'appréhender ça. Mais... je pense qu'on peut s'attendre à des ambiances comme le trio de Carla Bley, qui en fait nous a pas mal inspiré, et le trio de Mathieu Bordonnave aussi.
D'accord.
Qui est un saxophoniste français qui doit vivre en Allemagne, je crois.
Ouais, il est suisse. Enfin, je sais pas. Il y a des Suisses dans le trio.
Bon, j'irai écouter ce qu'ils font pour avoir les références que je n'ai pas, malheureusement.
C'est un jazz qui a un langage, si on peut dire, un peu européen. France nordique.
UCM, non, je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, je pense que ça nous a moi, ça m'inspire dans mes compositions et dans ce que je fais.
De c'est ça.
C'est un label, UCM.
Le label UCM.
Bon, et ben en tout cas, on peut vous découvrir très prochainement près de chez nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis de nous avoir parlé un petit peu de votre jazz music. À très bientôt.
Merci à vous.
Ensemble sur Calade.
Lilith Baker qui sont donc en concert au Cuvage de Jasseron, concert organisé par Le Chien à trois pattes, c'est ce dimanche à 17h. On les écoute avec The Woman I Love.